Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Dans une déclaration publiée lundi dernier, l'Union européenne déclare intolérable les souffrances infligées aux populations de l'Est de la RDC. Elle insiste aussi sur le fait que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. L'organisation se dit prête à contribuer activement aux initiatives pour une solution durable à la crise. Comment analyser la déclaration de l'Union européenne? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 12 décembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat André-Alain Atundu, ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Arsène Mwaka, professeur à l'université de Kinshasa et député national de l'opposition. Il est cadre du parti politique DCFN. Professeur Mwaka, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Et le professeur Dominique Wertz, il est professeur à l'université de Liège en Belgique et consultant à la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Dominique, bonsoir. Allô, professeur Dominique, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Boris Wassoulou de Bukavu, Sud-Kivu. La contribution active de l'Union européenne aux initiatives pour une solution durable de la crise dans l'Est de la RDC est la bienvenue, car nous voulons maintenant des actions et non des déclarations qui viennent jeter de l'huile au feu. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
À Bruxelles, l'Union européenne a déclaré intolérables les souffrances infligées aux populations de l'Est de la RDC. Dans une déclaration rendue publique lundi dernier, le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne insiste sur le fait que la souveraineté de la RDC doit être respectée. Les grandes lignes de cette déclaration, avec vous, Julien Yamouni.
Outre la question de la souveraineté et de l'intégrité de la RDC, l'Union européenne rappelle que le soutien extérieur apporté au M23 est inacceptable. Sans les citer, elle demande aux parties concernées de mettre un terme à ce soutien, tout en demandant au gouvernement de la RDC de favoriser des efforts concrets visant à instaurer la sécurité et l'état des droits dans l'est de la RDC. L'Union européenne s'est dit prête à contribuer activement aux initiatives pour une solution durable à la crise. Elle est prête aussi d'apporter son soutien au mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL. La même déclaration souligne que l'Union européenne attend les conclusions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le soutien extérieur dont bénéficierait le M23. Elle souhaite que le secrétaire général de l'ONU nomme un envoyé spécial pour l'Est de la RDC à l'instar de l'Union africaine.
Merci Julien Niamouni pour tous ces détails. André-Alain Atundu, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Quelle analyse vous faites de cette déclaration de l'Union européenne?
Merci, j'en profite pour saluer et les téléspectateurs, les auditeurs et les amis qui participent. Je leur souhaite aussi les meilleurs vœux pour cette année qui s'achève et la prochaine. Ceci démontre tout simplement l'unanimité de la communauté internationale à condamner l'attitude incompréhensible de M23. Cela démontre que M23 n'a pas de légitimité, ni sur le plan international, ni sur le plan national. Pourquoi ? Parce que le M23 s'attaque à deux valeurs fondamentales. L'intégrité du territoire, qui est une valeur sine qua non pour l'existence de notre pays, et ça, aucun citoyen congolais ne le soutient, et la démocratie, qui est une valeur que nous avons acceptée, adoptée, et pour laquelle nous avons effectué tant de voyages dans le temps et dans l'espace. Et donc, aujourd'hui, le M23 Je dirais que c'est comme une marionnette et l'Union européenne s'est adressée aux acteurs, aux gens qui agissent sur les marionnettes. Je crois qu'elle a raison de demander à ceux qu'ils soutiennent, non pas seulement d'ailleurs le Rwanda ou l'Ouganda comme on dit généralement, il y a aussi les multinationales, il y a probablement de groupes d'intérêt au-delà du continent africain, notamment au continent américain, au continent européen.
Et donc pour vous, cette déclaration est la bienvenue.
Mais elle vient confirmer une réalité.
Il y a cet auditeur, André Alain Tundu, Giseba de Likasi Okatanga, qui dit ceci: la déclaration de l'Union européenne n'est qu'une distraction car elle sait très bien qu'il déstabilise la RDC, y compris les multinationales occidentales, mais elle ne sanctionne pas.
Oh, je crois que c'est une lecture imparfaite de la chose. D'abord, en relations internationales, une déclaration est toujours un élément important parce que c'est le point de départ. N'est-ce pas? Il faut d'abord démontrer qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord pour poser des actes. Et en matière d'actes, mais l'Union européenne a suspendu ses aides, n'est-ce pas? Certaines de ses aides au Rwanda, la Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique, même les États-Unis, etc. Ce sont des actes, mais seulement, évidemment, aujourd'hui, il nous faut plus. Nous aurions souhaité que l'Union européenne participe au niveau de la force neutre, participe au niveau de l'équipement aujourd'hui nécessaire à la guerre, l'équipement technologique, comme avec des avions drones, comme on a vu ici pour surveiller les élections.
Parce que dit prête à contribuer activement aux initiatives pour
mais,
une solution.
Oui, mais c'est
durable.
Ça que je suis en train de voir un peu ces initiatives. L'initiative, c'est la force neutre. Il faut financer cette force. Il faut approvisionner cette force en personnel. Il faut que cette force soit équipée en matériel technologique adéquat de surveillance et de répression. Et donc, parce que il est impensable aujourd'hui qu'un État normalement constitué, qui a une vision de coopération et de coexistence pacifique, puisse soutenir un groupe qui, pendant le quelque temps qu'il a occupé Goma, a fait des exécutions sommaires et n'a pas le sens de l'État, n'est-ce pas? N'a pas le sens de bien commun. Ils ont pillé, ils ont pris les biens communs qu'ils ont amenés en dehors du pays. Ils n'ont pas le sens républicain, ils ne respectent pas les institutions. Ils n'ont pas le sens démocratique, ils ne respectent pas la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis Sun City, lorsque nous nous sommes entendus à vivre de façon pacifique et à régler nos problèmes de façon pacifique. Eh bien, cette volonté a été confirmée par la Constitution. La Constitution est mise en pratique. Et même l'accord auquel il se réfère, il y a une disposition qui interdit de recourir à la violence et aux armes pour accéder à un droit ou pour revendiquer un droit.
Alors, on va prendre pour vous, André Alain Tundu, cette réaction qui nous vient de Bandunduville, dans la province de Bandundu.
Malonga Kubali de Bandunduville. Nous nous fatiguons avec ces déclarations qui ne produisent rien à la population qui continue à mourir. Ce que nous voulons est de sanctionner sans tarder, pour ne pas ajouter d'autres déclarations, ceux qui sont déjà déclarés fautifs.
Alors, une déclaration des plus, mais rien de concret sur terrain.
Mais je voudrais insister que, en l'occurrence ici, mais c'est la déclaration du sommet de Kampala, de l'avant-dernier sommet, qui a obligé le M23 à quitter Goma, sans coup férir. Donc les déclarations ont un rôle en politique. Et en général, quand on fait une déclaration, on est obligé de poser des actes conformes aux déclarations. C'est ainsi que j'ai rappelé toutes les sanctions. Mais les déclarations ne signifie pas une démission de la part du gouvernement congolais ou du peuple congolais. Ça veut dire que nous, nous prenons les initiatives et eux, ils nous soutiennent sur le plan politique, diplomatique, militaire.
Merci André Alain Atundu. Professeur Arsène Mouaka, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et député national de l'opposition. Vous êtes cadre du parti politique DCFN. Vous, comment vous analysez cette déclaration de l'Union européenne? Comment vous l'avez accueilli?
Oui, je crois que, comme Congolais, je ne peux qu'apprécier que, pour une fois, nous ayons connu une guerre qui est peu désavouée, puisque depuis 1997, nous avons été habitués à des guerres qui se mènent au Congo et pour lesquelles la communauté internationale ferme les yeux. On se rappelle de l'AFDL, du RCD, du CNDP. À chaque fois, c'est nous qui dénonçons pour dire qu'il y a le Rwanda qui est chez nous, que nous sommes agressés. Et la communauté internationale dit toujours qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments. Et donc là, on a quand même une certaine évolution. On constate que la communauté internationale voit cette fois-là que nous sommes agressés. Mais ce qui fait très mal, c'est de voir que à l'interne, contrairement au passé, la dénonciation n'est pas très forte. Et puis, les tentatives pour contrer les avancées de ces rebelles ne sont pas conséquentes. Et donc, on a comme l'impression que nous nous arrêtons à ce que la communauté internationale dit. Nous nous arrêtons au plan qui sont tracés sur le plan de la sous-région et même sur le plan international, et qu'à l'interne, pratiquement, on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui s'organise. Là, le communiqué, je crois qu'il est interpellateur pour notre gouvernement, puisqu'il est responsabilisé comme acteur. Et notre gouvernement est appelé à s'assumer, à jouer son rôle. Et donc, c'est sur ce plan que tout se
bute. Est-ce que le gouvernement ne s'assume pas suffisamment?
Oui, mais bon, je crois que le M23 s'est retiré sur base d'un communiqué, mais je semble croire que nous tous nous aimons la diplomatie. Mais sur le terrain, moi je suis élu du Nord Kivu, sur le terrain, le M23 n'est pas très loin de Goma, et nous savons que c'est pas la première fois que le M23 se retire d'une ville. Le M23 s'était encore retiré de Rutshuru, de Kiwanja, et il avait contourné pour attaquer Kibumba, la MONUSCO l'avait bombardé, et le M23 est rentré bonnement occuper Rutshuru et Kiwanja, et c'est de là que le M23 est parti pour occuper Kibumba et Goma. Et donc, cela n'est pas nouveau et on les a vus provoquer le gouvernement. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le gouvernement cède à la provocation pour dire, bon, nous devons répliquer, vous devez nous écouter. Je crois que le M23 cherche la faute et fort des armes qu'il a acquis du gouvernement à Goma, des armes abandonnées, je crois qu'aujourd'hui, il peut prétendre qu'il a eu les armes non pas à Kigali, mais bien à Goma, d'entre les mains du gouvernement. Et donc, je semble croire que nous ne sommes pas loin d'une guerre. On ne peut pas être très content du communiqué qui a créé le retrait. Je crois que le retrait, là, n'est que temporaire. On doit plutôt organiser l'armée et organiser les choses pour que le M23 se retire définitivement du territoire national.
Est-ce que cette déclaration de l'Union européenne peut booster les efforts qui sont en cours pour mettre un terme à la crise qui prévaut dans le Nord Kivu?
Je crois que c'est une nouvelle donne. Maintenant, c'est à nous de capitaliser cette donne-là pour que l'on puisse définitivement bouter dehors le M23, puisque, en fait, si le M23 s'est retiré de Goma, il est à Kibumba. Kibumba, c'est le territoire national. Il est à Munigi, il est à Rutshuru, il est à Kiwanja, et ainsi de suite. Et donc, on a presque rien fait. Et donc, on ne peut pas dire une ville, la ville de Goma, est plus importante que le reste du territoire national, qui est du reste vaste. Et donc, je semble croire que ce communiqué est à l'avantage du gouvernement. Bon, mais maintenant, on veut voir que les gens s'organisent pour que les choses avancent. Et je ne semble pas croire que tout va se terminer dans la diplomatie. Il faut qu'à l'interne, nous puissions nous organiser militairement. Maintenant, tout le reste peut suivre.
Alors, on va prendre pour vous, professeur Arsène Mouaka, cette réaction qui nous vient de Butembo, au Nord Kivu.
Emenda Kala, depuis Butembo, au Nord Kivu, cette déclaration de l'Union européenne ne vient qu'à de s'ajouter sur une liste de déclarations déjà faites, mais sans impact concret sur terrain, pour dire que les déclarations ne pourront jamais résoudre les problèmes de ce pays.
Alors, professeur, les déclarations pourront jamais résoudre le problème de ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je crois qu'il faut connaître ce qu'on appelle l'Union européenne pour dire que c'est rien. Je crois que c'est un plus. Je voudrais dire à Ndakala que c'est un plus, Mais je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire, bon, il y a une urgence sur le terrain. Ndakal est à Butembo, il voudrait apprendre que soit le M23 a réintégré les rangs de l'armée nationale ou alors le M23 a été bouté dehors. Et donc, je comprends l'envie qu'il y a, mais je semble croire que, en fait, l'élément qui vient s'ajouter est au profit du gouvernement. Nous allons observer comment il va se comporter, mais je ne semble pas voir clair.
Alors, cet auditeur, il y a un autre auditeur qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu. Christian Mouta dit ceci, c'est aux Congolais de faire respecter la souveraineté et l'intégrité de leur territoire en réorganisant l'armée pour faire face aux attaques extérieures. Cette déclaration de l'Union européenne est très hypocrite, alors que les choses sont claires avec preuve à l'appui. Jamais l'Union européenne ne cite les deux commanditaires ou les deux pays qui sont derrière les M23. C'est de la poudre aux yeux des Congolais.
Je ne serai pas aussi dur. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec sa première proposition. C'est au gouvernement congolais de s'assumer. Puisque finalement, à force de nous faire assister par des armées étrangères, on va venir observer quoi au Kivu? Puisque au Kivu, il est vrai qu'il y a une agression rwandaise, mais le gouvernement n'ignore pas qu'il y a une multitude, plus de 50 milices, qui écume la partie est du pays, à partir du nord Katanga jusque à l'Itour, même jusque dans les Ouélé. Et donc c'est des multitudes de milices, de rébellions étrangères et ainsi de suite. Le M23 n'est qu'un acteur. Et donc il y a une multitude, et ça, on ne va pas demander une force d'interposition entre les différentes milices, entre les Nyantura, les Maïmaï et autres ACPLS, ainsi de suite. Non, non, ça demande à ce que le gouvernement s'assume. Et je semble voir, et je le souligne vraiment, que nous avons affaire à une insécurité qui menace le régime congolais.
Merci.
Mais l'insécurité qui menace la population congolaise est en réserve.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Professeur Dominique Wörth, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et consultant à la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle pourrait être, selon vous, la portée de cette déclaration sur l'évolution de la situation sur terrain?
Écoutez, moi je comprends très bien l'exaspération de vos auditeurs sur le fait que les choses sur le terrain avancent de manière relativement lente. En même temps, en étant ici en Europe, et je ne suis pas évidemment l'avocat de la déclaration de l'Union européenne et du Conseil Affaires Générales, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne, mais je pense qu'ici, il y a quand même dans cette déclaration quelques éléments qui sont assez intéressants, dans le sens où, même si je connais très bien le langage diplomatique, et je sais bien que parfois il faut un petit peu mettre de l'eau dans son vin, comme on dit en Europe, il n'empêche qu'ici, les mots qui ont été repris dans la déclaration du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont quand même assez durs. Hein. Donc quand je relis un peu la déclaration, on parle de situation intolérable, inacceptable. On parle aussi de phénomène cyclique, ce qui veut bien dire que ce n'est pas nouveau. Et donc je pense que ici on a quand même une déclaration de 27 pays qui composent l'Union européenne, qui lundi ont pris une position ferme en disant maintenant ça ne peut plus durer et il faut mettre fin notamment aux violations dont sont victimes aujourd'hui les populations des Kivu. Parce que je pense que même si aujourd'hui la situation avec le M23, avec le mouvement M23 et avec l'armée révolutionnaire du Congo, qui est la branche armée du mouvement M23, je pense qu'il ne faut pas oublier que les populations du Maniema, du Sud Kivu, de l'Équateur Tanga sont impactées par la désorganisation qui est mise en place par le M23. Et donc je pense que les mots durs qui ont été pris, et donc on n'est plus vraiment dans un langage policé, diplomatique, où on devrait faire en sorte qu'on respecte et qu'on surtout qu'on comment dire qu'on oui qu'on respecte les uns et les autres. Ici, il y a une déclaration de l'Union européenne qui clairement demande au mouvement d'arrêter le mouvement M23 d'arrêter les exactions qu'il est en train de commettre contre les populations des Kivu, et en même temps, bon, il se réjouit, et je pense que c'est un événement et un élément important aussi dans cette longue négociation qui va encore prendre du temps et qui malheureusement ne va pas faire changer la situation sur le terrain, mais je pense que la nomination de monsieur Boubacar Diarra au niveau de l'Union africaine comme envoyé spécial de la présidence de l'Union africaine, c'est un signal aussi qui est fort, parce que ça veut dire que l'Union africaine aujourd'hui s'investit dans la situation problématique de l'est de la République démocratique du Congo.
Et, alors, professeur,
et je pense que on a eu la CIRGL qui a un petit peu bougé. On a vu que la CIRGL avait nommé l'Ouganda comme médiateur. Et je pense que l'Union africaine aujourd'hui se rend compte que, évidemment, à partir du moment où l'Ouganda, en étant médiateur, mais en étant aussi partie du problème dans l'est du Congo, ça ne pouvait pas non plus fonctionner de manière tout à fait sensible et surtout paisible.
Alors, professeur, vous allez rester en ligne. Professeur, s'il vous plaît, vous allez rester en ligne. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bruxelles, en Belgique.
Docteur Maël et Henri, j'habite Bruxelles. Cette position de l'Union européenne ne fait qu'augmenter la pression sur le Rwanda et l'Ouganda, même si les deux pays ne sont pas cités nommément. C'est là que nos dirigeants au plus haut niveau doivent citer clairement les noms des pays qui appuient les M23 en multipliant les déplacements vers les dirigeants des pays décidaires, c'est-à-dire France, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Allemagne, Chine, etc. Le Congo doit avoir une diplomatie agressive au lieu d'aller dédouaner nos agresseurs, donc qui sont Rwanda et Ouganda, en acceptant d'aller négocier, voire même écouter les M23. Pour moi, c'est une faute grave. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, diplomatiquement, voire même au point de vue renseignement, ce sont des autres pays ou organismes qui doivent parler pour nous. La position de l'Union européenne aura des faits si nous la faisons nôtre. Nos dirigeants doivent battre le fer quand il est chaud, en profitant des multiples condamnations vis-à-vis des pays qui appuient les M23. Car demain, le Rwanda sera assis au Conseil de sécurité pour 2 ans comme membre non permanent.
Alors, brève réaction, professeur.
Oui, non, mais je suis un petit peu d'accord avec cette position. Je pense en effet que l'Union européenne, mais en même temps, ce n'est vraiment plus un secret pour personne. On sait très bien que le mouvement M23 est aujourd'hui orchestré, organisé, soutenu financièrement, militairement par 2 pays qui sont voisins de la République démocratique du Congo, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Donc ici, on tourne un peu autour du pot en disant oui, les forces extérieures négatives qui soutiennent le M23, mais le fait de dire des forces négatives qui soutiennent le M23, on sait très bien quels sont les pays. Et donc moi, je pense qu'en effet, il pourrait y avoir, au-delà de la déclaration de l'Union européenne, pour qu'elle soit confirmée comme étant sincère. Moi, je pense qu'il y a 3 choses que l'Union européenne devrait faire derrière la déclaration qu'ils viennent de prendre. 1, c'est évidemment de mettre en place un mécanisme de contrôle des armes qui sont qui circulent actuellement dans la région de l'est du Congo. Je vois que l'Union européenne se félicite de des résolutions 2076 et 2078. dans les résolutions 2076 et 2078, on dit notamment que le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque c'est des résolutions qui viennent de l'Assemblée générale des Nations Unies et donc du Conseil de sécurité, on dit
chose,
que
professeur...
tout le monde se félicite qu'on maintienne l'embargo sur les armes. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un contrôle de la circulation des armes dans cette région-là.
Merci. Allô? Ben, on va vous redonner la parole, professeur. Je crois qu'on a un petit problème technique. La sécurité, la stabilité, le développement dans la région des Grands Lacs constituent les préoccupations majeures de toutes les parties en conflit dans l'est de la RDC et de la communauté internationale. À cet effet, plusieurs initiatives sont amorcées pour arriver à cette fin. En plus de la présence des casques bleus de la MONUSCO, l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC et même les Nations unies ont porté leur faveur sur la mise en place d'une force internationale neutre en RDC. Cette force devrait avoir pour mission de lutter contre les forces négatives actives dans la région, toujours pour sécuriser la région. Un mécanisme conjoint de vérification des frontières a été mis en place et ouvert aux autres pays membres de la CIRGL. Comment alors comprendre toutes ces initiatives sous la crise au Nord Kivu, en présence de plusieurs forces en conflit dans la région? Tentative de réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
Pour la communauté internationale, il faut une force internationale neutre pour combattre toutes les forces négatives dans la région. Seulement, cette force neutre non seulement tarde à venir, mais reste floue quant à sa composition, d'autant plus qu'il y aura une mixture de plusieurs forces, entre autres un bataillon tanzanien, les militaires FARDC et même un contingent du M23. Son opérationnalisation risquerait de poser problème. D'autre part, un mécanisme conjoint de vérification a été mis en place par la CIRGL. Mais que devrait faire exactement ce mécanisme conjoint de vérification? Devrait-il vérifier quoi? Devrait-il contrôler qui? Selon la mission lui assignée, ce mécanisme devrait identifier les troupes du M23 ainsi que d'autres groupes armés opérant dans l'est de la RDC et contrôler les mouvements à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Composé d'au moins 24 officiers des pays membres de la CIRGL, ce mécanisme poursuit sa mission. Pourtant, ces jours, le M23 est connu. Il est présent à l'intérieur de la RDC. Par ailleurs, plusieurs rapports des experts des Nations Unies font état du soutien du Rwanda et de l'Ouganda au M23. Entre-temps, les groupes armés bénéficiant de tous leurs appuis sont toujours actifs sur le terrain et la sécurité n'est toujours pas rétablie dans la région du Grand Lac.
Merci Jacques-Yves Molima, André Alain Atundu. Plusieurs initiatives ont été menées ou prises pour mettre fin à cette crise du Nord Kivu, mais on constate que ça piétine un peu.
Oui, je dirais même c'est logique parce que c'est une situation fort complexe. Il y a le problème d'une vision hégémonique de nos voisins. Il y a le problème de l'exploitation illicite de nos biens. Il y a les rivalités locales. Il y a, disons, la boulimie du pouvoir de la part de certains Congolais qui n'hésitent pas à faire pacte avec le diable pour accéder au pouvoir. Évidemment, tout cela fait problème, il faut beaucoup de patience et de méthodologie, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que le pourparler de Kampala, ça ne se passe pas que dans la salle, c'est en dehors de la salle, même en dehors de l'Ouganda, les pourparlers continuent aussi ailleurs. Donc, je pense qu'il faut prendre son mal en patience, parce que, rappelez-vous, je crois que le problème des milices ont commencé dans les années 90, avec les Ngilima. Et donc, 90 à aujourd'hui, ça fait presque 2 décennies, et il faut vraiment prendre son mal en patience.
Alors, il y a cet auditeur, docteur Mayele, qui dit que la RDC doit avoir une diplomatie agressive au lieu d'aller dédouaner nos agresseurs en acceptant d'aller négocier avec eux.
J'espère que, ce disant, il ne veut pas dire que c'est une diplomatie de coup de poing. Parce que, en l'occurrence, je crois que notre diplomatie a été particulièrement active et tous les résultats que nous engrangeons aujourd'hui, toute cette série de sanctions, toute cette série de déclarations, c'est le fait que des gens ont expliqué aux autres, à leurs partenaires, les raisons la légitimité de notre lutte, la noblesse de notre combat, la protection des valeurs fondamentales que j'ai dites, notamment l'intégrité territoriale, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Ça, c'est le fruit de notre diplomatie. Il faut bien reconnaître que notre diplomatie a été à la hauteur compte tenu des résultats. Deuxièmement, même si nous nous référons aux autres, nous n'avons pas abdiqué devant nos responsabilités de défendre le territoire national. Bien sûr, les milices écument le Kivu, mais l'honorable ne va pas dénier qu'il y a une présence des forces armées congolaises, n'est-ce pas? Et que si ces forces armées n'étaient pas là et qu'elles n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu, je crois que selon M23, il serait déjà à Kinshasa depuis longtemps.
Alors, il y a cet autre auditeur de Beni au Nord Kivu qui dit ceci. Les condamnations verbales ainsi que les déclarations de compassion, à l'instar de celles de l'Union européenne, c'est du déjà entendu, ça plus finalement de l'hypocrisie, car le Rwanda et l'Ouganda ne fabriquent pas les armes. Si l'Union européenne veut nous aider réellement, elle n'a qu'à les peser au Conseil de sécurité pour qu'on sanctionne nos éternels agresseurs. À défaut, nous envoyer une force comme Artemis, capable de neutraliser tous ceux qui troublent la paix dans l'est de la RDC.
Oui, mais je crois qu'il est un peu en retard, parce que de toutes les façons, dans les relations internationales et dans les organisations internationales, tout commence par une résolution. Une résolution, c'est une déclaration. C'est pourquoi je dis c'est une étape importante et déterminante dans le comportement des États. Et donc, nous avons fait tout cela. Aujourd'hui, nous sommes à la phase où nous demandons à nos partenaires des moyens concrets. Vous avez, l'Union européenne nous a pratiquement tendu la perche ou a répondu à notre appel en disant qu'elle attend des propositions concrètes. Et Merci. Sur ce plan, je vous ai dit que nous avons besoin d'équipements technologiques nécessaires, Merci. Nous avons besoin de financement, etc.
Merci, honorable Arsène Mwaka. Pourquoi, selon vous, toutes ces initiatives qu'on prend pour mettre fin à cette crise n'arrivent pas à porter des fruits?
Oui, mais tout simplement parce que nous subissons les initiatives extérieures. C'est le M23, c'est le Rwanda, c'est Museveni, et finalement la sous-région, le CIRGL, qui nous propose. Et nous, généralement, nous n'avons pas de schéma. Nous subissons. Et c'est cela le mal. Et donc, je suis souvent surpris quand on dit que nous avons eu des victoires diplomatiques. Je crois que c'est même là le problème. Parce que si vraiment il y avait des victoires diplomatiques, je crois que le Rwanda ne serait pas membre permanent du Conseil de sécurité à ce moment ici. Et donc, je semble croire qu'il y a plusieurs failles. Le schéma qui est en cours au niveau de la CIRGL, c'est à la fois le schéma du Rwanda et le schéma de l'Ouganda. Le fait que l'Ouganda, qui est un pays agresseur, soit arbitre, c'est déjà anormal qu'un joueur soit arbitre. Il est habillé à maillot des adversaires et c'est lui qu'on prend comme arbitre et on accepte, on avance. Je semble croire que tout cela montre qu'il y a un ça ne va pas. Je semble croire que là aussi, tous on est d'accord. J'ai entendu plusieurs personnes de la majorité, les dames particulièrement, dénoncer ce fait que le terrain sur lequel se jouent les négociations, c'est pas un terrain neutre. C'est le laboratoire de toute cette agression qui commence en 1986. Et donc, je semble croire qu'il y a une grande page de l'histoire et son Excellence l'ambassadeur Lyongo qui est à côté de moi, en fait à Tundu qui est à côté de moi, il connaît parfaitement cette région depuis la période Mobutu où par milices interposées, nos gouvernements se sont affrontés du côté de l'Ouganda avec les Nalu EDF qui sont là jusqu'à aujourd'hui et de notre côté avec le Rwenzururu Movement Freedom qui, lui, a cessé d'exister puisque le pays ougandais a pris les choses au sérieux. Le Rwanda, qui nous a agressés 2 ans après le génocide. C'est en 2 ans qu'ils ont constitué une armée. Mais nous posons problème, non pas puisque nous manquons l'armement, nous avons cédé au M23 des tonnes et des tonnes de munitions et d'armes. Ce que nous manquons, c'est l'organisation. Nous ne manquons même pas les éléments. Les Congolais sont là, ils savent se battre. Ils l'ont prouvé à Masisi. Ils se sont battus. Mais puisqu'il y a un désordre, on leur a demandé d'arrêter de se battre. Et c'est comme ça que le M23 a trouvé du souffle. Quand on a voulu se battre en Équateur, dans le dossier de Enyele et autres, mais c'est à 2 minutes qu'on a fini cette affaire. Je semble croire qu'il y a beaucoup plus de problèmes dans cette question de l'Est. Et j'ai dit à la majorité qu'elle doit bien nous parler. Qu'est-ce qui ne va pas?
Alors cet auditeur estime que si l'Union européenne voudrait aider la RDC, il faudra qu'elle nous envoie une force comme Artemis, comme toutes les initiatives qu'on prend ici n'arrivent pas à donner des résultats escomptés.
Oui, bon, je suis à partie d'accord avec lui, mais Artemis n'a pas sécurisé totalement l'Ituri. L'Ituri a encore aujourd'hui des FPRI et ainsi de suite, au tas de milices. Il y a même un regroupement de toutes les milices qui étaient opposées qui arrivent finalement à se réunir. L'Ituri est en train d'avancer, de s'enfoncer dans les sécurités, puisque justement, après Artemis, il n'y a rien. C'est comme aujourd'hui, la communauté internationale a fait secours à l'Afghanistan, mais aujourd'hui, la France se retire, par exemple.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Professeur Dominique, quel rôle l'Union européenne peut-elle jouer à ce stade dans la crise du Nord Kivu?
Mais écoutez, moi je pense qu'il y a trois, au-delà des déclarations qui aujourd'hui sont relativement fortes, hein, donc, mais bon, il ne suffit pas de se limiter à des déclarations. Moi je pense qu'il y a trois enjeux important sur lequel l'Union européenne pourrait montrer d'une part sa sincérité et d'autre part sa volonté de vouloir s'investir dans la résolution durable du conflit qu'on connaît aujourd'hui à l'est du Congo. La première, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on fasse une traçabilité très claire des armements qui aujourd'hui circulent dans la région. Et je pense que il y a pas mal d'armements qui sont utilisés par les forces qui sont plutôt informelles à l'est du Congo, qui viennent de l'Union européenne. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un audit et qu'on voit vraiment d'où viennent les armes qui sont utilisées par les forces néfastes ou négatives à la mise en place de la République démocratique du Congo. Deux, je pense qu'il faut qu'on le fasse aussi sur les minerais. Et je pense, on sait très bien que si cette zone est instable, c'est pas uniquement pour les questions culturelles, c'est pas uniquement pour les questions communautaires, c'est aussi évidemment parce que c'est une région très riche au niveau de son sous-sol, que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau de l'or, que ce soit au niveau de tous les minerais dont on sait qu'aujourd'hui l'industrie électronique a besoin, que ce soit la cassiterite, le coltan, etc. Et donc qu'on fasse aussi un peu un audit très clair, et l'Union européenne peut le faire, elle a les moyens de pouvoir déterminer une traçabilité du commerce de ces minerais. Et puis trois, je pense que il ne faut pas oublier quand même le programme de reconstruction à l'est du Congo, qui est le Starec, hein, et qui aujourd'hui manque de moyens, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, mais je pense que dans les faits, il y a très peu de moyens et de budgets qui ont été finalement mis à la disposition du Starec, de ce programme de reconstruction qui doit passer par la réinsertion socio-professionnelle de toutes les bandes armées qui ont décidé soit de rentrer dans les forces armées de la République démocratique du Congo, soit dans la vie civile. Et on voit très bien aujourd'hui que la communauté internationale met très peu de moyens à cette réinsertion socio-professionnelle des membres de ces groupes armés informels qui veulent rentrer chez eux et puis retrouver une vie un peu correcte, mais pour laquelle il faut évidemment qu'on mette un soutien. Et il est clair que si on augmentait de manière drastique et de manière vraiment importante le niveau de vie des populations à l'est de la RDC, on aurait deux fois moins de problèmes violents.
Merci, professeur.
Les gens aspirent tous à simplement pouvoir avoir une vie décente, et ce standard de la vie décente, l'Union européenne pourrait vraiment participer à sa restauration, au fait que les populations à l'est de la République démocratique du Congo retrouvent un niveau de vie décent
Merci. Leur permettre de pouvoir vivre en paix.
Merci, professeur André Alain Atundu et à Julien Kasereka de Goma au Nord Kivu qui dit ceci. Le peuple congolais doit prendre son destin en main car personne ne viendra combattre pour nous. C'est juste une distraction de l'Union Européenne car aucun groupe armé ne fonctionne sans l'appui de l'Occident. Pour Kasereka, la solution viendrait des Congolais eux-mêmes.
Mais c'est ce que nous faisons. Le Congo doit être le noyau central et l'élément déterminant. Et ce nous, qui par la diplomatie, qui par la politique, qui par les moyens militaires, appelons nos partenaires à nous soutenir. Le Congo n'a pas démissionné, n'est-ce pas? Que ce soit sur le plan diplomatique, c'est notre action qui est la première, qui est l'initiatrice. Que ce soit sur le plan politique, c'est les initiatives du gouvernement. Que ce soit sur le plan militaire, c'est autour de notre armée. Donc, il doit se tranquilliser. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Mais vous savez, la sécurité d'un État aujourd'hui est une préoccupation commune et de ses voisins, et de la région, et du monde entier, compte tenu notamment du fait que les multinationales et les autres États, n'est-ce pas, ont des intérêts importants dans l'exploitation de nos ressources, etc. C'est tout à fait illusoire de penser que tout seul, nous allons résister à tout cela, rien que par les armes, rien que tout seul.
Et donc la solution viendra du Congo, avec le soutien des...
Bien sûr, comme nous le faisons maintenant. Mais pour cela, il faudrait que les Congos n'acceptent pas de connivence avec des gens sans foi ni loi, dont le seul objectif est de tirer profit de ce désordre pour se faire une place au soleil, pour avoir de l'argent par le trafic illicite. Et non, ça c'est... Et puis, il faut tirer profit de l'évolution positive de la conscience internationale. Personne ne peut soutenir aujourd'hui l'M23 parce qu'il s'attaque aux valeurs fondamentales des relations entre les États.
En conclusion ?
Eh bien, en conclusion, il faut absolument une cohésion nationale autour des valeurs de l'intégrité nationale et de la démocratie sous la houlette du leadership républicain du président Kabila. On ne peut pas gagner une guerre dans les désordres, on ne peut pas mener une action efficace sans avoir une direction unique.
Merci monsieur André Alain Atundu, professeur Arsène Waka. Vous allez aussi conclure pour monsieur Atundu, la solution doit venir des Congolais avec l'appui des partenaires.
Oui, je semble croire que c'est un beau schéma qui doit se concrétiser, qui doit se traduire par les actes. Et je semble dire que la question de la connivence de certains Congolais dans ce qui se passe n'est pas une question morale. Je crois que le gouvernement congolais doit créer des mécanismes pour que même quand il y a connivence, que nous soyons en mesure de nous défendre. Et de ce point de vue, je voulais dire que si l'Union européenne doit nous aider, je semble croire qu'il faut nous aider à réaliser des états généraux de notre politique de défense. Nous devons être en mesure de discuter de ce que nous voulons dans notre politique de défense. Et il est vrai que la charge de constituer une armée, elle nous revient. Mais je crois qu'il faut que les gens discutent plutôt que de faire des choses vaille que vaille à la sauvette, comme on le fait maintenant. De deux, je semble croire qu'il faut aider le Congo à se sécuriser des menaces extérieures, d'abord pour contrer les agressions directes, mais aussi il y a des rébellions étrangères qui sont chez nous, qui sont le fait des contradictions internes aux pays étrangers. Et donc, de ce point de vue, ça demande des niveaux de dialogue et enfin, il y a toutes nos contradictions locales. Je semble croire que notre gouvernement est compétent pour ça.
Merci, professeur Arsène Maka. Professeur Dominique, un mot en guise de conclusion.
Mais non, écoutez, moi je pense qu'en effet, il faut dans la situation actuelle renforcer la cohésion nationale, que ce soit avec l'opposition, que ce soit avec la majorité, que ce soit avec ceux qui n'ont pas été dans le processus électoral, il faut une cohésion nationale de toutes les forces vives du Congo pour renforcer le président Kabila, renforcer le gouvernement actuel qui a quand même été élu par la population.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Samuel Katchak sous la supervision de Julien Nyamouni. La technique était assurée par Guy Manzangou au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.